Pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous sommes à Monaco, cette cité-état de 2 km² située au sud-est de la France, à l'occasion de la conférence sur la place de l'environnement dans les médias des pays méditerranéens organisée par l'Union de la presse francophone. Des journalistes de 29 pays sont venus ici témoigner de la place de l'environnement dans leurs propres médias et dans les médias plus globalement de leur pays. Avec moi pour en parler Jean Kouchner, secrétaire général de l'Union de la presse francophone, Fadiata, directeur de publication La Nouvelle Tribune au Maroc, Suzanne Baaklini, journaliste à L'Orient le Jour au Liban, Rafik Baba Ahmed, journaliste à Al-Watan en Algérie, et Cynthia Fleury, psychanalyste et philosophe. Alors Cynthia Fleury, vous disiez à la fin de la première partie de l'émission que l'environnement finalement devait être transversal, que ça irriguait partout, que actuellement on parle de crise économique, mais derrière il y a évidemment aussi la crise écologique, la crise sociale, tout cela est lié, ce sont les trois piliers finalement du développement durable qui sont en cause. Suzanne Baaklini, est-ce que quand on travaille dans un journal au Liban aujourd'hui, on arrive justement au niveau de votre rédaction en chef, etc., à faire passer ces messages-là, que l'environnement c'est pas juste une case à part où on parle de la défense des petites fleurs et des animaux, mais on parle de crise systémique et de solutions pour les résoudre qui seraient en lien avec cette préservation de l'environnement?
Justement, c'est ça la grande évolution qu'il y a eu, non seulement par rapport à ma rédaction ou à ma direction, mais par rapport au public. Parfois, c'est ce que les crises amènent aussi. Aujourd'hui, par exemple, je reviens à l'exemple de la crise des déchets. Aujourd'hui, les gens se rendent compte combien la gestion des déchets peut leur coûter. Et donc,
alors, expliquez-nous déjà ce que c'est que cette crise des déchets, parce que tout le monde n'en a pas entendu parler.
Oui, alors c'est une crise des déchets qui est... on ne collecte plus la poubelle, justement, depuis juillet, parce que la principale décharge du pays a été fermée.
Parce qu'il faut expliquer que cette décharge est complètement saturée.
Elle est complètement saturée.
Elle se déverse dans la mer.
Ça fait des années qu'on ne trouve pas de... En fait, elle était prévisible, hein, pour ceux qui suivent bien le dossier. Donc effectivement, c'est par excellence un exemple qui montre combien l'écologie a d'impact sur l'économie d'un pays. Et aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus capables de faire le lien entre tout ça. C'est vrai que...
Et elle en est où, cette crise des déchets, aujourd'hui?
Jusque-là, les autorités se débattent dans un problème parce que personne ne veut de décharge à côté de chez lui, parce que tout le monde a vu l'échec de la première. Donc voilà, donc un problème de gouvernance, un problème de confiance entre la population et les autorités. Cette crise a fait remonter beaucoup de choses et elle se fait sur fond de crise politique et crise économique aussi.
Et donc aujourd'hui encore, les déchets ne sont pas ramassés à Beyrouth ?
Non, ils sont à Beyrouth, ils sont ramassés, mais ils ne sont pas placés dans une décharge. Ils sont placés dans un endroit temporaire et ailleurs, c'est des décharges sauvages qui sont nées.
Et donc les populations sont intéressées, là pour le coup le lectorat est attentif.
Le lectorat est très attentif, c'est vrai.
Les médias se sont mis à en parler, mais est-ce que du coup vous avez l'impression que c'est une prise de conscience des enjeux environnementaux derrière? Est-ce qu'on fait le lien entre la crise politique, la mauvaise gestion économique, cette situation sanitaire complexe? Est-ce que ça éveille une conscience environnementale au Liban?
Je crois que c'est ça la grande prise de conscience. Hein. Ce n'est plus seulement la peur de la pollution d'une part. La grande prise de conscience, c'est de faire le lien entre tous les différents facteurs. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va se généraliser pour tous les dossiers environnementaux? Est-ce que ça ne va pas disparaître avec la fin de la crise ou une fin temporaire de la crise? Je n'en sais pas.
Alors, Rafik Baba Ahmed, vous disiez que vous, pour Al-Watan, vous suivez plus les enjeux de biodiversité, donc ils sont une approche assez traditionnelle, j'ai envie de dire, de la protection de l'environnement. Est-ce que il y a justement en Algérie des dossiers vraiment chauds en ce moment? Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous écrivez dans votre journal?
Pour l'instant, il n'y a pas quelque chose de chaud, mais il y a les problèmes récurrents qui reviennent, qui est la désertification, la déforestation, qui est les problèmes qui se posent au littoral, l'agglomération, enfin les problèmes de concentration d'agglomération qui sont fondamentaux chez nous. Et vous savez, il y a 80% de la population algérienne qui vit sur pratiquement 4% du territoire, et donc ça fait une occupation surpopulation sur les rivages qui n'est pas maîtrisée, donc ça c'est un gros problème. Il y a l'eau, c'est là avec les changements climatiques, la région MENA est considérée comme celle qui est la plus exposée demain à la sécheresse. Donc il y a des problèmes d'eau, de gestion de l'eau, de l'utilisation de l'eau. Puis ensuite, à côté de tout ça, il y a évidemment l'Algérie est connue pour sa biodiversité. Hein. C'est un pays où la biodiversité est assez exceptionnelle. C'est même il y a des endroits qui sont des centres de la biodiversité en Méditerranée, hein, qui sont l'équivalent de ce qu'on peut avoir de l'autre côté. Et ça aussi, donc des espèces qui sont endémiques, de plantes, d'animaux, et ça aussi, donc, il y a une érosion de la biodiversité qui vient de l'utilisation progressive des milieux, de l'occupation des milieux, que ce soit les milieux terrestres ou les milieux aquatiques, comme les zones humides, qui sont particulières chez nous, parce que nous avons toute une catégorie de zones humides, ça va de la côte jusqu'au sud, et donc il y a encore un tas de choses à faire. Chaque année, on fait des découvertes de nouvelles espèces, surtout en ce qui concerne les invertébrés. Voilà, ça c'est des dossiers chauds pour ce qui me concerne, quoi. Dès qu'il y a une atteinte à un milieu naturel, évidemment, on en parle, on essaie d'expliquer. C'est vrai que je m'occupe un peu plus de ces aspects-là que d'autres, mais il y a les dossiers sont là, hein. Ce sont des problèmes qui sont communs, tout le monde en parle et ils sont d'actualité. Voilà.
Alors Fadiata, au Maroc, vous le disiez, il y a la COP 22, enfin va y avoir en novembre la COP 22, donc la 22e conférence des Nations Unies sur le climat. On attend, il fait 30 000 personnes, ça va être un gros événement. Hein, le climat mobilise aujourd'hui tout le monde. Est-ce que du coup, vous avez l'impression que ça crée une effervescence dans les médias marocains? On l'a vu en France, par exemple, hein, la COP 21 a créé une effervescence.
C'est incontestable. On sent que d'abord parce que l'État et partant de l'État, le gouvernement met les moyens qu'il faut pour informer et donner l'occasion aux gens d'apprécier les efforts qui sont faits, les efforts préparatoires qui sont faits dans cette perspective. Et donc les journalistes, quelle soit la presse électronique, presse écrite ou radio-télévisée, les journalistes sont à l'affût. Mais je crois que ça c'est une dimension qui est un peu informationnelle stricto sensu et factuelle. Il y a aussi maintenant dans la presse marocaine, surtout qu'on est dans une pré-campagne électorale, les élections qui auront lieu au mois de novembre prochain, octobre prochain, pardon, il y a une préoccupation qui est à la fois une posture qui est double, celle d'une investigation et dénonciation des écarts, des problèmes que peuvent poser les comportements humains pour la préservation de l'environnement, et une posture d'exigence. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que, en réalité, c'est un peu ce que disait Madame tout à l'heure, les questions d'environnement, ce sont des questions transversales et qui se raccrochent à des droits fondamentaux. Et c'est par ce biais-là qu'on peut effectivement sensibiliser l'opinion publique et donner de l'intérêt à nos sujets quand ils traitent de l'environnement. Parce que le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation sont des problématiques qui sont récurrentes dans la presse marocaine. Et ces problématiques-là, elles permettent aussi d'aborder des questions liées à la préservation de l'environnement, à l'écologie, au milieu naturel, etc., etc.
Alors quand je vous écoute, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement les problématiques que vous avez en tant que journaliste dans vos différents pays sont les mêmes dans les pays de l'autre côté de la Méditerranée, j'ai envie de dire. Cynthia Fleury, c'est vrai que quand on regarde la façon dont est traité l'environnement en France, et même plus globalement dans les pays dits développés, il y a cette difficulté toujours à faire le lien entre ce qui nous concerne directement, ça peut être des pollutions, etc., et puis ces enjeux politiques, économiques. Est-ce que c'est une question de vision à court terme, moyen terme, long terme, un décalage comme ça entre l'appréhension que l'on a de ce qu'on a dans l'immédiat et les conséquences que ça peut avoir à plus grande échelle?
Bon, de toute façon, c'est vrai qu'il y a une difficulté qui n'est pas spécialement spécifique à l'environnement, mais en tout cas qui est très symptomatique des questions environnementales, c'est que vous avez des décalages dans le temps, très forts. Des décisions qui sont prises à un moment donné vont avoir un impact climatique dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, c'est pas simple, il y a une sorte d'invisibilité de la menace. Des décisions qui sont prises, vous avez tel pays qui tout d'un coup relance les centrales à charbon, et où est-ce que les particules fines vont atterrir? Sur le pays voisin. Donc vous avez un décalage territorial. Donc nous savons très bien que sur les questions de réchauffement climatique, ce sont des pays, certains pays sur les côtes, etc., les petites îles qui sont en première ligne alors qu'elles-mêmes ne prennent pas des décisions et ne sont pas pourvoyeuses de gaz à effet de serre, pas du tout. Donc tout ce système fait que c'est pas simple à appréhender. Et puis vous avez un temps du politique, un temps électoral, lui-même se faisant évaluer sur 4-5 ans, et donc c'est pas simple pour lui de prendre aussi des grandes décisions qui renvoient à 15-20 ans, alors qu'il est soumis à une pression absolument quotidienne parfois de l'actualité de ses concitoyens. Ça c'est un premier point. Mais en revanche, ce qui est intéressant et ce qui se joue aujourd'hui sur cette capacité de faire le lien entre le micro, le macro, les différents niveaux, c'est qu'on a parlé ici des médias, et nous avons à cette table des représentants, je dirais, des médias traditionnels. Mais aujourd'hui, les médias, c'est plus vaste que ça. Ce sont les médias sociaux aussi, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une cartographie, pour ceux en tout cas qui s'intéressent à la question environnementale, la cartographie est très très grande, et si vous voulez prendre contact avec un N+1, avec quelqu'un qui est déjà dans une construction alternative, qui déjà fabrique autrement, pense autrement, fait de la culture autrement, de l'agriculture autrement, fait une entreprise autrement, vous pouvez. Et ça aussi, c'est une manière médiatique, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on passe par un média, les réseaux sociaux. C'est en France, je pense à des blogs, quantité de blogs, le blog de Anne-Sophie Novel, je pense aux instituts, oui, je pense à l'Institut des Futurs Souhaitables, je pense bien évidemment à WWF, à la FNH, au réseau Entrepreneurs d'Avenir. Par quelques endroits que vous vouliez attraper la question, vous pouvez vous relier avec des gens qui sont déjà dans cette idée de faire autrement. Et ça, c'est pas, ça aussi, c'est assez nouveau par rapport à il y a 30 ans, où alors les médias avaient un rôle de prescription absolument fondamental, mais simplement dans la description du problème. Là, dans l'action immédiate de transformation, vous pouvez aussi trouver matière.
Voilà, donc il y a les médias traditionnels qui informent, et puis il y a en effet tous les réseaux sociaux et Internet qui est une source inépuisable d'informations et qui permettent aux gens de se mettre en relation. Et là, on en joue beaucoup, nous aussi, dans C'est pas du vent. Donc on va parler de tout ça juste après une petite pause musicale.
J'ai aimé une fleur, elle m'a appris l'amour, elle m'a appris les pleurs. C'était si naturel, j'étais tellement
Nous sommes à Monaco, vous écoutez C'est pas du vent et vous avez bien raison. Nous sommes à Monaco à l'occasion de la conférence sur la place de l'environnement dans les médias des pays méditerranéens. Nous sommes installés au 9e étage de l'hôtel Columbus. Nous avons vu sur la Méditerranée et donc nous parlons de l'importance de parler de l'environnement dans les différents pays dans lesquels travaillent nos invités et puis de la difficulté aussi de parler de cette thématique. Alors durant ces deux jours de conférence, Jean Couchetard, il y a eu des questions sur l'accès à la formation, l'accès à l'information. C'est vrai qu'évidemment c'est essentiel pour les journalistes, mais ce qui revenait aussi de façon un petit peu régulière, c'était de dire que parler d'environnement c'est compliqué, mais finalement c'est pas plus compliqué qu'une autre matière. Mais on a l'impression que dans les débats, certains journalistes s'abritaient un petit peu derrière ça en disant « bah oui, nous on n'en parle pas trop dans notre média parce que vous comprenez, faut être un spécialiste, c'est compliqué ».
Je pense qu'il y a deux questions à voir sur ce plan. Il y a d'une part une nécessité qui a été exprimée de spécialisation d'un certain nombre de journalistes sur les questions de l'environnement, et en même temps une réflexion qui conduit à montrer que justement, c'est pas forcé cette spécialisation, mais qu'au contraire, ça nécessite que les journalistes soient capables de traiter des sujets qui sont des sujets profondément sociétaux, qui transcendent absolument les clivages, les étroitesses, on va dire, qu'il peut y avoir dans certains domaines. Oui, il y a forcément une mise en cause et par conséquent, la nécessité d'une connaissance précise sur les rouages, sur les structures de la société, sur la production elle-même. Mais je crois qu'il faut surtout pas voir la nécessité de formation comme devant déboucher sur une nouvelle spécialisation en faisant fi d'autres domaines.
Oui, parce que Suzanne Vaclini, vous traitez ces sujets d'environnement à L'Orient le jour, mais vous n'avez pas forcément une formation de journaliste environnemental. Vous avez appris sur le terrain.
Pas du tout.
Alors c'est quoi ? C'est une question de sensibilité personnelle ?
Déjà, à la base, c'était une question de sensibilité personnelle, c'est une question de curiosité, c'est une question d'aller chercher, d'essayer de trouver l'information là où elle se trouve, d'essayer d'avoir des perspectives différentes, de voir à partir d'angles différents. Donc c'est un travail qu'on fait sur soi. Et on apprend sur le terrain. Je crois qu'un journaliste est supposé aborder tout genre de sujets. Parfois, on vous envoie un sujet où vous n'y connaissez rien, mais il faut savoir être curieux, je crois. C'est fondamental.
Vous acquiescez, messieurs, Rafik Baba Ahmed?
Je trouve qu'il faut quand même un certain nombre de connaissances pour parler de certains phénomènes. Je dis pas qu'il faut être expert, hein. Je dis pas non plus qu'il faut pas connaître les problèmes sociaux.
Vous voulez dire quoi? Pour parler par exemple de changement climatique?
Il faut quand même à la base avoir quelques données, parce qu'il faut traduire.
Oui, mais est-ce que c'est pas vrai dans tous les domaines pour parler de finances, par exemple, ou d'économie? C'est très compliqué aussi.
Oui, mais il faut avoir des notions d'économie aussi. Si on veut parler d'économie et vulgariser l'économie.
Oui, mais tous les journaux parlent régulièrement d'économie. Et beaucoup moins d'environnement. Pourquoi ?
Si je dois citer le cas de l'Algérie, c'est parce que l'économie, ce qui arrive, et c'est toujours une préoccupation qui passe en premier plan, et les journaux suivent. Les journaux suivent l'intérêt des lecteurs, hein, c'est tout.
Donc vous pensez que les journaux, par exemple en Algérie, ne parlent pas énormément d'environnement parce que ça n'intéresse pas les gens ?
Voilà,
c'est votre
précision. Ça intéresse de moins en moins. L'environnement, à un moment donné, a été...
Ça, c'est incroyable. Va complètement à l'inverse de toutes mes convictions.
Quand la situation... C'était à un moment donné, où l'Algérie, était assez... où on s'est arrêté, où on discutait, parce que...
Mais il y a eu quand même cette forte mobilisation dans le sud de l'Algérie contre les gaz de schiste, qui a été une mobilisation populaire, et qui, pour le coup, a été totalement spontanée, ce qui prouve bien qu'il y a quand même un intérêt quand on touche, par exemple, aux enjeux de l'eau.
Là, il y a deux choses différentes. Moi, quand je vous parlais de l'intérêt que portait, c'est l'intérêt aux grandes questions, aux grands enjeux de l'environnement. Maintenant, évidemment, si on revient à des questions comme les gaz de schiste, la chasse à l'outarde par les émirs du Golfe, que ce soit. Donc, c'était factuel, hein, donc c'était des faits, c'est une mobilisation citoyenne tout à fait spontanée, hein. Généralement, ça c'est pour dire que, généralement, des fois, il y a des problèmes qui sont tout à fait organisés, tout ça, des problèmes d'environnement qui sont créés de toutes pièces, mais je vais pas en parler. Et donc, ça c'est factuel, c'est un fait, c'est une action tout à fait particulière, hein. Les gaz de schiste, c'est la population qui s'est mobilisée, donc il y a eu une alerte de scientifiques qui sont d'abord de la région, hein, ce qui nous a beaucoup surpris, de l'université de Ouargla, qui a donc donné l'alerte sur l'utilisation donc de l'exploitation par les gaz de schiste par la pression hydraulique. Donc comme l'eau étant un sujet extrêmement sérieux dans le sud, c'est le cœur du Sahara, c'est Ain Salah, toucher à cette réserve qui est la mer fossile qui se trouve sous le désert, c'était pratiquement touché à l'avenir de toute cette communauté, hein, jusqu'au nord. Donc évidemment, il y a eu cette réaction, les citoyens se sont opposés. Et ça a été très dur, hein. Il y a eu de la répression, les gens étaient mis en prison, les principaux initiateurs ont été un peu bousculés, mais bon, ils ont tenu bon, et puis le gouvernement donc, a dû faire marche arrière.
Voilà, donc il y a quand même une sensibilisation
Les gens se mobilisent, hein. Les gens se mobilisent et mènent des combats, hein. Combats qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas, ça dépend des situations.
Fadiata, est-ce que vous diriez qu'au Maroc, la conscience environnementale est croissante?
Oui, tout à fait, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que peut-être je vais différer un peu du point de vue de mon collègue, mais c'est parce que aujourd'hui, on est assailli par l'information. Elle vient de partout, tout le temps. Et l'instantanéité de l'information, c'est un phénomène qui interpelle les gens, y compris parce qu'il y a le phénomène des smartphones, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a... Et un Marocain, jeune, sait qu'il y a une grande problématique qui se pose aujourd'hui, c'est celle du réchauffement climatique. Et que, effectivement, quand si une petite île va être envahie, engloutie par la mer, c'est parce qu'en Chine, on a trop utilisé du charbon pour développer toute la production exportatrice de la Chine ou aux États-Unis. Donc moi, je crois que, et là, à ce niveau-là, je parle de la presse marocaine parce que c'est celle que je connais le mieux. La presse marocaine, elle joue un rôle. D'abord de lanceur d'alerte et deuxièmement d'analyse. Et je crois aussi que on n'a pas besoin d'être un bon spécialiste en environnement ou d'être un journaliste scientifique. On a besoin d'être un bon journaliste. C'est-à-dire, et aujourd'hui, je suis un homme d'un certain âge, l'accès à l'information est 100 fois plus rapide, facile et agréable que quand j'ai commencé mon métier de journaliste au début des années 70. Parce que on a Internet, on a la possibilité d'avoir des réponses immédiates à des questions qui peuvent être lourdes et qui concernent peut-être le Maroc, mais qui concernent l'Algérie, la France, l'Espagne ou les îles Mariannes. Et je crois que lorsqu'un journaliste veut faire un travail sur une question de fond qui concerne l'environnement, il a des sources qui sont crédibles et fiables, et qui sont vérifiées et vérifiables beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et ça, je pense que c'est un facteur qui permet une meilleure information, une meilleure analyse et une meilleure appréhension des problématiques environnementales.
Cynthia Fleury, après il y a évidemment une dimension de rythme et d'ampleur, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui tous les signaux sont au rouge, alors je m'adresse un peu à la psychanalyste en même temps, malgré tout le travail fait par les gens qui sont autour de cette table, j'ai envie de dire, il y a quand même un peu le sentiment, notamment du côté de la classe politique, que les gens font l'autruche. Comment est-ce qu'on peut diagnostiquer en tant que psychanalyste, ce côté un peu incroyable de dire on voit les phénomènes.
Ça, c'est le fonctionnement de base de l'homme, hein. Ça s'appelle le refoulement. Donc, le refoulement, c'est la base de la névrose, c'est-à-dire que quand il faut changer, et que c'est compliqué, et que c'est difficile, on refoule, et ça, c'est plutôt le bon point. Vous voyez un petit peu, c'est plutôt la manière saine, hein, la névrose reste la santé. Ce qui est plus grave, c'est le déni, et le déni c'est la psychose, et on rentre dans des phénomènes de psychose ordinaire aujourd'hui, où on n'est même plus dans le refoulement, parce que le refoulement on tisse encore avec, c'est difficile, on n'aime pas ça, mais bon, on en fait quand même quelque chose, et on transforme ça avec un récit, ça met du temps, c'est lourd, ça freine, etc. Le déni, on est véritablement dans quelque chose qui est, voilà, on se clive, et on voit très très bien qu'aujourd'hui un des problèmes majeurs de la société, c'est qu'elle construit une aliénation sociale en séparant l'action de la pensée. Donc c'est très simple. Moi, je rappelle bêtement, hein, que l'homme est cette espèce animale qui, précisément, pour agir, pense. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et donc, à partir du moment où, à chaque fois qu'on veut qu'il agisse précisément, on lui demande de ne pas réfléchir et de se mettre en pilotage automatique, sous pression, performance, etc., ben, effectivement, on crée des robots, des gens déshumanisés, et il n'y a pas de fond pour la déshumanisation, parce que plus vous êtes déshumanisé, plus vous allez vers la déshumanisation. Donc c'est quelque chose, effectivement, compliqué, et donc le déni dans lequel on s'installe par rapport à des réquisites de performance, de délire, de rentabilité financière, enfin que sais-je, qui est quand même la vérité aussi de ce monde, c'est pas simple. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'un homme... paraît-il, en tout cas l'histoire nous l'a enseigné, peut sauver beaucoup d'autres. Donc, de fait, voilà, notre travail...
Un sursaut d'humanité ?
J'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que, voilà, moi je suis très... J'ai défendu le courage comme outil de régulation, et pas nécessairement comme outil de leadership. Jean Kelevitch, je disais, fais ce que tu as effectivement à faire et ce que tu peux effectivement faire. Déjà, ici à cette table, on a des prescripteurs, on a des enseignants, on a des psychanalystes, et notre travail, c'est de rendre capacitaires les citoyens, de leur donner les moyens de transformer le récit commun. Et de fait, nous le faisons. Ce qu'il faut comprendre aussi, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, très très important, nous ne fonctionnons plus à l'heure des masses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le succès de quelque chose, ça ne sera pas de monter en généralité comme nous l'avons fait dans les années 50 avec la massification. Parce que la massification, elle a aussi ses effets pervers. Et donc, nous allons travailler avec des minorités actives, avec des insularités plurielles, différentes, qui n'ont pas le même type de montée en généralité. Et donc, à chaque fois, lorsqu'on me dit « mais oui, mais ça concerne que ce petit endroit », non, c'est pas vrai. Il y a des milliers et des milliers d'insularités qui effectivement sont plus endogènes, elles concernent un territoire local, elles ne sont pas immédiatement transposables ailleurs, et tant mieux. Et tant mieux, parce qu'on sait très bien ce que crée aussi la mondialisation et les économies d'échelle délirantes et qui font qu'à un moment donné, on se dessaisit de la vérité d'un territoire. Donc je dis pas qu'il faut rentrer dans les fiefs, les clans, etc. Mais il faut comprendre aujourd'hui qu'on fabrique du collectif différemment. On fait pas de la masse, mais on fait des collectifs, et c'est ça...
Si on fait le satellite et qu'on regarde
exactement,
un peu
quand on regarde un petit peu tous ces mouvements...
Ça redonne de l'espoir.
Quand on regarde tous ces mouvements, on voit que, oui, il y a de l'alternative, il y a de l'issue, il y a de la possibilité, et en plus, la bonne nouvelle, c'est que les jeunes générations, en règle générale, se saisissent de ça, et que ça forme un avenir pour elles, à la fois en termes politiques, mais aussi en termes d'innovation. C'est-à-dire en caractère pionnier. Ils se disent, tiens, là, j'ai quelque chose que je peux inventer, que je peux faire. Et elles sont absolument réjouies de par ça. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps au Maroc. J'ai été, mais frappée, sincèrement. Hein, je ne dis pas parce que nous avons un journaliste marocain à cette table. Mais frappée par l'investissement de ce pays à différentes strates. Des professeurs, les avocats, la société civile, les hommes politiques, etc. Avec des plans importants pour la question de l'énergie solaire, des plans importants sur les questions de ville durable, des plans importants sur la mer, bien évidemment. Qui est... Donc, voilà, toutes ces questions-là, c'est un enjeu aujourd'hui qui n'est pas du tout occidental, mais qui est un enjeu qui traverse véritablement tous les pays.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on l'a bien compris avec les témoignages des uns et des autres. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Demain, justement, nous donnerons la parole à des personnes qui agissent à un micro-niveau, mais avec des retombées internationales. Ce sont les personnes engagées ici à Monaco dans la protection de l'environnement. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.